Vous écoutez France Culture.
Et à 6h45, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc Blanchet.
L'Iran au menu.
Voilà, les conséquences géopolitiques d'une éventuelle attaque israélienne sur des installations nucléaires proliférantes, c'est un sujet très sensible. Et hier, le président Ahmadinejad à Téhéran a exhibé de l'uranium enrichi à 20%. Bruit de botte de l'autre côté en Israël, dont on dit qu'il bénéficiera d'une fenêtre de tir politique au printemps ou en été, en pleine campagne présidentielle américaine. Une attaque israélienne serait évidemment un camouflet pour les États-Unis. Ostensiblement, le président Bush fils avait à plusieurs reprises interdit à Israël d'attaquer l'Iran. L'actuelle administration démocrate semble paradoxalement s'y résoudre, ou presque. Déjà l'année dernière, les États-Unis avaient reçu une gifle de l'Arabie saoudite qui était entrée militairement dans Bahreïn en compagnie d'autres pays de la péninsule arabique, malgré les avertissements de Washington. Alors on connaît les grands dangers d'une attaque israélienne des installations nucléaires iraniennes. D'abord, avant d'être plus ou moins islamiques, les Iraniens sont d'abord iraniens et ils risquent de faire corps, sinon avec le régime, tout simplement avec leur nation. Les Iraniens peuvent appeler le monde arabo-musulman à descendre dans la rue. Il y a déjà eu beaucoup de monde dans la rue ces temps-ci, mais cette fois pour de bonnes raisons. Les installations iraniennes sont enterrées, dispersées. Une attaque ne ferait sans doute que retarder et renforcer le programme. Et puis, évidemment, on peut imaginer que les Iraniens ne sont pas les seuls dans ces installations. Enfin, beaucoup d'arguments contre. On reviendra sur certains arguments pour. Donc, dans les semaines à venir, l'invité d'Éric Laurent est Bernard Ourcade. Il est directeur de recherche au CNRS dans l'équipe de recherche Monde iranien. Bernard Ourcade.
Mais des deux côtés, le vocabulaire est extrêmement violent. Sanctions plus fortes qu'elles n'ont jamais été. Israël annonce des bombardements imminents. Les Iraniens en répliquent en disant « si vous faites cela, je bloque les trois d'Hormuz », etc. Donc une déviation, une outrance verbale très claire d'un côté. Mais aussi, des deux côtés, il y a une volonté de discussion évidente. Après 33 ans aujourd'hui de République islamique, on arrive à un certain paroxysme. En touchant aujourd'hui au pétrole, on touche au symbole, c'est-à-dire beaucoup plus fort que la réalité. On touche au centre de la République islamique, on touche au centre de l'Iran surtout. Et donc, on change d'échelle. Et au-delà des sanctions sur le pétrole et la Banque centrale, il n'y a plus de sanctions économiques. Donc soit ça passe ou ça casse. Ça casse, tout le monde annonce, bombardement d'Iran, attaque militaire, etc., un scénario d'apocalypse qui est annoncé, mais peut-être trop annoncé pour être crédible, ou de l'autre côté, des solutions raisonnables, des deux côtés, puisque Ahmadinejad et même le guide de soutien de ce point de vue-là a demandé à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, de reprendre la discussion sur une discussion globale avec les cinq grands plus l'Allemagne. Et côté États-Unis, on sait très bien que depuis deux mois à peu près, il y a de multiples canaux discrets de contact avec l'Iran. Des deux côtés, on a conscience qu'on arrive à un paroxysme de la crise, qu'au moment où on se retire d'Irak et d'Afghanistan, on envisage le retrait, c'est pas le moment d'avoir un Iran déstabilisé. Dans la solution militaire est d'autant plus rejetée qu'elle est crédible aujourd'hui, qu'elle est imminente en quelque sorte, potentiellement, d'où la nécessité d'accélérer les négociations.
Mais quelle serait de la part du guide qui jusqu'alors s'est présenté comme justement le garant des vertus et de l'héritage de la révolution, c'est-à-dire les deux piliers qui sont l'islamisme radical et l'anti-américanisme, de quelle manière pourrait-il justifier un rapprochement avec les États-Unis et sur quelle base ?
Alors, pas de rapprochement avec les États-Unis, mais c'est une logique de guerre froide qu'il faudrait retrouver, disons. Ils disent Moscou et Washington, pendant des décennies, ont été des pays de blocs opposés, mais ils avaient des relations diplomatiques, même commerciales. Bon, il y avait des relations entre les deux. Il faut cesser que l'Iran soit un pays en marge du monde comme il l'est depuis 30 ans. Et le guide, ne pas l'oublier, c'était un jeune mollah révolutionnaire quand il avait 35 ans, la révolution. Il rêve toujours d'un Iran fort économiquement, militairement, politiquement, idéologiquement. Mais il ne veut pas être le guide de l'Afghanistan, d'un pays sous-développé et marginal. Donc il se rend compte qu'il y a une opposition intérieure, une nouvelle bourgeoisie qui veut avancer, qui est nationaliste, qui veut bien travailler avec lui s'il est correct. Il sait aussi que les sanctions sont là, qu'elles sont dures, qui font que l'Iran s'appauvrit. Et donc il faut trouver une solution. Mais la question fondamentale pour le guide, c'est d'être le maître de l'ouverture. Il n'a jamais voulu que, à l'époque de Ratami fasse l'ouverture contre lui.
Le président réformateur.
Le président réformateur, qui a fait un accord sur le nucléaire en 2003 avec les Américains et les
Européens. Qui a été rejeté.
Par les Américains comme par les Iraniens. Et donc ensuite, si Moussavi avait été élu, il aurait également été opposé au guide. Donc ses réformes n'auraient jamais marché en quelque sorte. Il aurait été beaucoup d'opposition. Alors actuellement, le guide cherche effectivement à voir l'ouverture, mais surtout à contrôler cette ouverture pour en rester le chef. Ce n'est pas un imbécile, c'est quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe. Il sait que les rapports de force ont changé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec Obama, il y a une opportunité. Avec l'ancien mouvement vert de contestation, il y a une opportunité aussi d'intégrer cette dynamique au profit de la République islamique. Et donc, le guide est à sa fin politique pour essayer de trouver une porte de sortie dont il serait le maître.
Et qui sont les opposants, je veux dire, juste à cette ouverture aussi, en tout cas ce rapprochement ou à ce dégel, disons, pour être plus clair?
Alors, un certain nombre de personnes en Iran pensent que si on cède un petit peu, on cède tout. Si les États-Unis, qui sont le grand Satan, le symbole de l'unité révolutionnaire, deviennent des gens fréquentables, c'est le sang de la République islamique qui tourne, qui est nié, en quelque sorte, des martyrs qui sont bafoués. Alors, cette idée-là, elle est maintenue par un certain nombre de purs et durs, qui sont autour de la force Quds. La force Quds, c'est le nom de Jérusalem. C'est une force qui a été constituée pour libérer Jérusalem lors de la guerre Irak-Iran, en passant par le Hezbollah et par Israël. Alors, c'était l'exportation de la révolution islamique dans le monde chiite.
Proche des gardiens de la révolution, d'ailleurs.
C'est une branche des gardiens de la révolution. Oui. C'est un régiment, si vous voulez. C'est un petit peu comme les bérets verts britanniques. Ce sont les commandos d'action extérieure, qui sont 5 ou 10 000 personnes, mais qui sont un peu les purs et durs de la révolution islamique. Ces gens-là sont de plus en plus forts maintenant parce qu'ils sont en train de constater que les choses évoluent et qu'on ne pourra pas échapper à une ouverture. Et ils n'en veulent pas, parce que leur force, justement, c'est d'aller jusqu'au bout. Il y a deux éléments qui sont à nouveau de ce point de vue-là. La répression de 2009, qui était prévue par le guide et voulue par lui, mais pas aussi fort que cela. Et même chose pour l'ambassade britannique, qui a été attaquée il y a 2 mois de cela. Il était prévu quelques cocktails Molotov et des slogans sur les murs. Il n'était pas prévu une attaque aussi forte que cela. C'est-à-dire que le guide actuellement se sent dépassé par sa droite. Et ces gens-là s'y opposent, des militaires purs et durs, qui ne sont pas tous les gardiens de la Révolution, qui sont une branche d'entre eux. Et actuellement, ça pousserait le guide éventuellement à discuter pour éviter d'être bloqué sur sa droite, comme il a été déjà sur sa gauche.
Mais si on accepte cette lecture effectivement des événements, est-ce qu'on peut supposer que l'attitude israélienne extrêmement menaçante aujourd'hui, au fond, rejoint celle des États-Unis et au fond la conforte?
Alors, en Israël, vous savez, le débat est très fort. Israël est un pays démocratique. Et le débat est fort. Un jour, Ehud Barak dit une attaque contre l'Iran, c'est pour dans longtemps. Et maintenant, il vient de dire c'est imminent. Bon, ça fait depuis 1992 que l'Israël annonce une attaque de l'Iran. Donc, il faut être très prudent de ce point de vue-là.
Par exemple, le ministre de la Défense, Léon Panetta, déclare qu'après avoir discuté avec les responsables israéliens, il envisage effectivement une attaque de leur part dans les 2 à 3 mois à venir.
Panetta et le ministre américain de la Défense et Obama ne veulent absolument pas d'une attaque militaire. Donc ils essaient de négocier avec les Israéliens, de leur dire calmez-vous, on va trouver une solution, on va résoudre le problème à votre place. Hein. Donc, et on sait très bien qu'Obama et Netanyahou ne s'entendent pas complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a une vraie confrontation américano-israélienne sur le dossier iranien. C'est pour cela que les Américains essaient d'avancer pour dire, voilà, on a trouvé une solution, inutile d'attaquer. Mais montrer que vous allez le faire pour faire pression sur les Iraniens, ce qui est négatif aussi. Et la question est importante aujourd'hui, c'est de comment parler aux Iraniens et aux Iraniens comment parler aux Américains. Un article intéressant a été fait par John Dinbert, qui est un ancien otage, qui a fini ambassadeur et qui a été sous-secrétaire d'État de Clinton concernant les affaires iraniennes pendant 1 an. Il a publié un article récent disant « Comment parler aux Iraniens ?». Ça fait 33 ans que les deux diplomaties ne se parlent pas et donc elles sont obligées de tout réinventer. Donc soyons prudents, disait-il à ses collègues diplomates, il est à retraite maintenant, regardons les choses avec modestie, avançons pas à pas, ne voulant pas faire de l'Iran un pays démocratique et libéral en 15 jours, c'est une longue processus qui va commencer, soyons prudents. Mais quand on a des sanctions sur le pétrole, quand on a des menaces de bombardement, quand on a le détroit d'Ormuz qui peut être bloqué, et tant de forces militaires des deux côtés, la situation est extrêmement dangereuse.
Mais pour en revenir à la position israélienne, pourquoi ces menaces d'intervention militaire au moment même où se déploie un certain nombre justement de négociations secrètes entre les États-Unis et justement Téhéran? Est-ce que c'est pour justement les faire capoter, les freiner, ou au contraire, c'est pour les conforter?
Certains pensent en Israël qu'une attaque ponctuelle serait un coup au moral de l'Iran très fort. On verrait la guerre imminente approcher, et des deux côtés, l'Iran, c'est impossible. Et donc, amener l'Iran à une négociation. comme quand l'Airbus d'Iranair en juillet 1988 a été abattu par l'armée américaine par erreur, ça a conduit Roménie à accepter de cesser le feu avec l'Irak. Et certains disent, s'il y avait une action militaire scandaleuse comme cela, montrant que la guerre est épouvantable si elle dégénérait, ça mènerait l'Iran à négocier. C'est une analyse donc d'une guerre positive qui est très contestée par les militaires, sachant que de tous les côtés, il y a tellement de forces avec les doigts sur la gâchette que si on met une étincelle, ça risque d'être très très grave pour la sécurité d'Israël. Et en Israël, certains disent, le problème ce n'est pas l'Iran, qui est très loin de chez nous, c'est le problème palestinien, c'est la relation avec le monde arabe, ce qui se passe en Syrie, c'est sérieux. Au lieu de se cacher derrière l'Iran et une bombe atomique qui n'est pas pour demain ni même pour après-demain techniquement, on a le problème aujourd'hui de la Syrie, de l'Égypte, de la Jordanie, du Hamas. Voilà les vrais problèmes pour la sécurité d'Israël, et ceux qui pensent que c'est le nucléaire iranien se trompent.
L'abandon du programme nucléaire iranien est évidemment probablement une des conditions posées par Washington. Est-ce que c'est une condition réalisable par Téhéran, acceptable?
C'est utopique.
Oui.
Il faut bien croire que de notre côté, nous voulons l'arrêt du programme nucléaire iranien, et les Iraniens disent que c'est une chose qui n'est pas discutable. Donc il faut retrouver un point de discussion, c'est un élément essentiel. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même si le gouvernement iranien était demain un pays libéral et démocratique, aurait une capacité à faire une arme atomique dans X années, quel que soit le régime. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est prendre l'Iran au sérieux. Que ce pays, comme beaucoup de pays au monde, aura une capacité à faire une arme atomique d'un jour ou l'autre. Le problème, le contrôle de cette capacité. Et c'est la vraie question qui se pose. Non, c'est pas dire aux Iraniens, vous n'avez pas le droit d'enrichir l'uranium, ils ont le droit d'enrichir, c'est de le faire sous contrôle. Et c'est ça qui est important. Et le contrôle n'est pas uniquement militaire, il est aussi, bien évidemment, politique, commercial, culturel. Et actuellement, le fait que l'Iran est isolé renforce évidemment les plus radicaux en Iran qui disent, voyez, la seule façon de nous défendre, c'est d'être encore plus radical qu'on l'a été jusqu'à maintenant. Et là, c'est dangereux.
Bernard Ourcade, donc au micro d'Éric Laurent. Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS, franceculture.fr, pour réécouter l'émission durant 30 jours, pour la télécharger le jour même. Et puis demain, Marc, nous allons revenir sur les questions européennes à propos du rôle de l'Allemagne donc dans la gestion de la crise économique, compte tenu des points de vue différents de ses partenaires, essentiellement anglais et français.